Et bon, bah alors c'est bon, on a le temps alors. Alors, regardez avec moi le psaume 65. Il est dit: avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Alors, Sion est Jérusalem, hein, mais est également un type de l'Église, hein, même si l'Église ne remplace pas le peuple juif, et nous sommes d'accord. Il est dit: et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ça, c'est une chose. Psaume 65, la verset 1, on va lire tout le psaume, les vœux qu'on t'a faits. Ça, c'est une chose. Quelquefois, les gens pensent que parce qu'ils sont sous la nouvelle alliance, eh bien, ils n'ont plus. Alors, je ne sais pas pourquoi ou pour qui je le dis, mais c'est quelque chose qui m'arrête et qui m'interpelle dans mon esprit. Donc, je vais en parler. Mais quand vous faites un vœu à Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes sous la nouvelle alliance que nous sommes dispensés. Pourquoi? Parce que c'est une parole que nous avons lancée et nous allons voir plus tard l'importance des paroles. Mais ça, quand on merci de fermer les portes, peut-être, s'il vous plaît. Quand on fait un vœu à Dieu, eh bien, il est essentiel que nous respections ce vœu. Un chrétien, ce n'est pas seulement qu'il croit en un Dieu de la parole, c'est-à-dire souvent les gens disent: bah ouais, c'est le Dieu de la parole. Mais Dieu est le Dieu de la parole qu'il te donne. C'est-à-dire que si la parole qu'il t'a donnée n'est pas encore accomplie, ça n'est pas parce qu'il a failli. La Bible dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand une parole n'est pas encore accomplie, peut-être que c'est parce que c'est nous qui avons oublié cette parole. Peut-être que c'est nous qui avons fait quelque chose de contraire à cette parole, ou tout simplement parce que ça n'est pas encore le temps. Moi, je vais vous dire, cette année, c'est le temps de l'Église, la bonne nouvelle. J'ai une telle expectative dans mon cœur que c'est comme si j'y étais déjà. Mais là, avec confiance en Dieu, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Tout cela pour dire que si vous avez fait un vœu à Dieu, respectez-le. Parce que quand on fait un vœu à Dieu, eh bien, c'est parce qu'on engage notre parole. Et quand on engage notre parole, eh bien, c'est parce que l'on a compris que la parole est quelque chose qui nous lie. C'est exactement ce que les proverbes disent. Il dit: tu es lié par tes paroles. Et quand les gens font des vœux et qu'ils ne respectent pas, c'est peut-être parce qu'ils prennent la parole à la légère. Ce qu'il y a, c'est que la parole que l'on prend, notre parole, à la légère, eh bien, c'est quelque chose qui se retourne contre nous, parce que quand on prend notre parole à la légère, eh bien, c'est un signe que l'on prend la parole de Dieu à la légère. Soit cette parole-là, et qu'on la traite comme un chiffon, comme si elle n'avait pas de poids dans notre vie, ou alors on prend à la légère la parole que Dieu nous a parlé. Je vais en parler ce week-end. Ce week-end, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que quand on a reçu une parole de Dieu, ça devient un argument pour lutter contre la mort. Vous savez que ce week-end-là, sur le royaume de Dieu, encore une fois, les gens disent: oh, toi, bon, c'est bon que ton règne vienne, da 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 da. Quand vous allez voir l'Église telle que on peut la voir, je pense que vous n'allez plus voir votre destinée et de la même manière. Et vous allez voir que vous allez avoir un argument contre la mort. Un chrétien qui part avant l'heure, bon, tant mieux pour lui parce qu'on sait où il est. Mais franchement, s'il n'a pas fini sa destinée, c'est un manque terrible. Terrible dans l'Église, un manque terrible. Mais il y a des gens qui ne savent pas lutter pour la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de raison de lutter pour continuer à vivre. Et quand Dieu te parle, quand tu sais quelque chose concernant ta destinée, tu as un argument contre la mort. Vous êtes inscrit au Weekend Studio? Pas encore? Ben moi, je vais vous dire une chose. Venez, arrivez à l'heure, priez. Priez, c'est un sujet qui est important. La manière dont il est enseigné ne l'est pas, mais je vais vous dire, c'est révolutionnaire. Donc, quand Dieu te donne une parole, c'est parce qu'il a l'intention. Dieu n'est pas quelqu'un qui parle dans le vide. Dieu n'est pas quelqu'un qui remplit de l'espace avec les mots ou qui remplit de l'espace sur une page. Dieu est un Dieu qui dit quelque chose, qu'il a l'intention de faire. Et quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a juste un objectif en tête. En général, Dieu dit quelque chose et cela inclut beaucoup de choses à la fois. Quand Dieu fait une chose dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il a fait une chose, c'est peut-être une chose que tu as vu qu'il a faite dans ta vie, mais à vrai dire, Dieu a touché plusieurs domaines de ta vie et certainement celle des autres en même temps. Donc quand tu fais un vœu à l'Éternel, quand en général un vœu c'est « Seigneur, si tu fais cela dans ta vie, alors je te promets de faire cela. » Par exemple, quand j'ai entendu l'évangile du salut, je l'ai entendu et c'était la première fois que je l'entendais avec mes oreilles spirituelles, avec mon cœur. J'avais déjà, nous sommes dans un pays chrétien, et étant élevé dans une famille catholique traditionnelle, c'est-à-dire pas pratiquant, je crois mais je ne pratique pas, ou je ne veux rien avoir avec l'église ou quoi, mais c'était cela, l'atmosphère de la région dans laquelle j'ai été élevé. Que Dieu bénisse la Bretagne. Et donc j'ai entendu, en allant au catéchisme, entendre « Jésus est mort pour les péchés », ça n'était pas une phrase inconnue. Entendre que Jésus est ressuscité, ça n'était pas des mots inconnus. En revanche, le sens, je ne l'avais jamais perçu. Et quand je l'ai entendu pour la première fois avec mes oreilles spirituelles, là, ça m'a complètement bouleversée. Il y a vraiment eu en plus un contact tangible avec Dieu, où Dieu a eu un contact tangible avec moi, son onction était présente et j'étais tellement bouleversée. Il y a des personnes qui m'avaient accompagnée à cette réunion et qui m'ont dit « Mais Marianne, fais une expérience, demande à faire une expérience avec Dieu. » D'accord, c'est exactement ce qu'il fallait me dire. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de pratique et moi si ça ne marche pas, il n'y a aucun intérêt que ce soit dans ma vie. C'est simple. Donc ça c'était quelque chose que je puisse expérimenter. Que je puisse mettre Dieu à l'épreuve, et c'est ce qu'il a fait. Donc je lui ai dit, eh bien Seigneur, délivre-moi de la cigarette. Malgré la volonté que j'ai, Dieu sait si elle était forte à l'époque, et elle l'est toujours, encore plus maintenant, parce qu'elle repose sur la vérité, et le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Et je lui avais dit, ça c'était le vœu, si tu le fais, alors je saurai que c'est toi, parce que j'ai essayé tant de choses, j'avais 22 ans, je saurai que c'est toi, et si c'est toi, je te donne ma vie. Ça, c'était un vœu. Cela veut dire, eh bien, je reçois le salut. Ce n'était pas « je m'engage dans le pastorat », parce que d'abord, le pastorat, je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, je ne savais pas ce que c'était l'appel. C'était juste une « je t'accepterai comme étant celui qui va me diriger ». Et moi qui avais horreur d'être contrôlé, vous imaginez que c'était un gros truc. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, quand on est sauvé, de dire « Tiens, je vais aller au ciel », ça c'était magnifique, c'est « Je remettais le contrôle de ma vie entre les mains de quelqu'un à qui j'acceptais de faire confiance. » Et pour moi, le fait qu'il m'ait délivré de la cigarette, c'était une preuve qu'il avait de bonnes intentions à mon égard. Donc le vœu était « Eh bien, si tu le fais, moi je le ferai. » Et une semaine plus tard, environ, eh bien, je me souviens très bien, dans ma chambre, avoir rappelé ce vœu à Dieu en disant « Dieu, je ne te connais toujours pas. » Vous imaginez qu'en une semaine, on ne connaît pas Dieu. Et pour les chrétiens qui sont nés de nouveau depuis 40 ans, vous réalisez que quand on est né de nouveau depuis 40 ans et qu'on a étudié la Bible toute sa vie, on ne connaît pas Dieu. Hein ? Plus on connaît Dieu, plus on réalise qu'on ne le connaît pas. Donc si vous pensez qu'au bout de 60 ans de vie chrétienne, on peut arrêter de rechercher le Seigneur, ah non, 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 non. Parenthèse, close. Et donc, le vœu que j'avais fait, c'est « je te donne ma vie ». Et quand je me suis retrouvée intentionnellement devant lui, je lui ai rappelé ce vœu. Et j'ai dit « Seigneur, eh bien, je t'avais dit que si toi tu faisais ta part, eh bien moi je ferais la mienne. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui l'as fait. Je ne te connais toujours pas, mais je te donne la vie. Donne-moi la tienne. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Et à l'époque, je ne comprenais même pas l'importance et la dimension de mes mots. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a fait, je l'ai fait, et depuis, on est ensemble. Quand quelqu'un fait un vœu, si tu fais ta part, moi je ferai cela, la Bible dit que nous sommes, dans les Proverbes, nous sommes liés par nos paroles. Il y a des gens qui ne voient pas des choses débloquées dans leur vie parce qu'il y a des vœux qu'ils ont faits et qu'ils n'ont jamais respectés. Parce que quand on dit « Seigneur, si tu fais cela, moi je fais cela » et qu'on ne le fait pas alors qu'on a reçu du Seigneur ce qu'il nous avait dit, ben qu'est-ce qui se passe? Ben il va attendre qu'on le fasse. Et les chrétiens, c'est-à-dire les croyants du Nouveau Testament, s'il y a bien une chose que l'on doit, surtout ceux qui sont charismatiques, surtout ceux qui comprennent l'importance de la foi et de la grâce, eh bien nous devons être des personnes de la parole. Que ce soit de la parole de Dieu, que nous approchons avec respect, ou que ce soit des gens de la parole, c'est-à-dire nous tenons nos paroles. Et plus nous tenons nos paroles, plus moins nous avons de difficultés à croire que Dieu tient la sienne. Ben, je vais essayer de fermer la parenthèse sur le sujet. Mais en tout cas, s'il y a des vœux que vous avez faits à Dieu et que vous n'avez pas encore tenus, moi je vous encourage, c'est le moment. C'est le moment. Et ce verset continue en disant, alors c'est David hein, qui dit là, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Alors vous allez dire, bah ça parle de l'élection, il y a des personnes qui sont choisies pour être sauvées, d'autres non. Non, qui est choisi? La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé le monde. Comment vous pouvez dire que vous aimez le monde en disant à certains, toi que j'aime, reste hors de ma présence? Tout le monde est invité. Donc, mais ici, il faut savoir que David ne connaissait pas encore toutes les dimensions du salut. Mais ensuite, il est dit, heureux celui que tu choisis. Est-ce que vous avez été choisi par Dieu? Ben oui, parce que vous êtes dans le monde, hein. Vous avez été admis en sa présence, oui, parce que nous sommes lavés par le sang de l'agneau, pour qu'il habite dans tes parvis. Là, maintenant, la nouvelle alliance, c'est encore mieux, parce que là, c'est lui qui habite en nous. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Alors ça, c'est valable pour nous nous rassasirons du bonheur. Si tu veux savoir où est le bonheur est dans notre union avec lui. Dans notre union avec lui. Et il y a quelque chose qui ne peut pas rassasier le cœur de l'homme, autre chose que cette union avec lui. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force et il ceint de puissance. Il apaise le rugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Comment est-ce que Dieu peut apaiser le mugissement des mers aujourd'hui? Comment est-ce qu'il peut le faire? Comment est-ce qu'il peut faire taire les peuples? Comment est-ce qu'il peut calmer quelque chose? Ben, c'est très simple. Dans la tempête, Jésus a dit, tais-toi. C'est-à-dire que si les chrétiens ne disent rien, le tumulte continue. Si tu ne dis rien concernant la confusion qu'il y a à ton travail, ben, c'est ta faute. C'est très simple. Jésus nous a montré l'exemple. Dans le tumulte, dans la tempête, eh bien, on parle. Vous savez, ce matin, je me suis réveillée, il y avait une tempête, je ne sais pas ce qui s'est passé à Nice où vous habitiez, mais vraiment, avant, c'était... Et à un moment, ça prenait une telle ampleur, j'ai un abri dans mon jardin, je me suis dit, cette fois-ci, là, alors là, il faut que des anges le tiennent, parce que sans ça, il Et il s'envole. Et en voyant que ça prenait de plus en plus ampleur, à un moment, alors je n'ai pas hurlé, j'ai dit dans le nom de Jésus, tu te tais. Et immédiatement, après ça a repris un peu, mais ça n'avait plus du tout la même dimension. Et comme je suis bretonne et que j'aime le son du vent, ça allait. Mais à un moment, c'était vraiment, c'était tellement fort, mais net, cette puissance-là s'est arrêtée. Donc quand il y a un tumulte, quand il y a un tumulte dans votre famille, quand il y a un tumulte à votre travail, quand il y a un tumulte dans votre quartier, eh bien, il se taira, ce tumulte. C'est-à-dire que Dieu fera taire ce tumulte si tu ouvres ta bouche. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que nous faisons. Il est dit, ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est frais de tes prodiges, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, et ça, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Comment y a-t-il des gens qui peuvent être contre le fait que Dieu veut donner l'abondance à des chrétiens? Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas que des gens aient trouvé dans la Bible que Dieu veut rendre pauvres. Écoutez, ça, c'est une idée qui vient tout droit de l'enfer. Ce qui me désole, c'est qu'il y a des chrétiens qui la propagent parce qu'ils sont encore, ils estiment encore être sous la loi, c'est-à-dire recevoir l'abondance de Dieu en fonction de leur mérite. Mes amis, on n'est pas dans cet état-là. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et déjà, à ceux qui étaient sous la loi, le Seigneur leur disait, voilà, je veux l'abondance. Et bien évidemment, ça dépendait de leur obéissance. Aujourd'hui, notre abondance dépend de ce que Jésus a acquis à la croix et du fait que nous nous laissons conduire vers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par cette abondance. Cette abondance, elle ne vient pas à nous juste parce qu'on a trouvé que Dieu nous veut abondants. Cette abondance vient à nous quand on découvre que Jésus a payé le prix pour qu'elle soit nôtre légalement et que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, oui, il y a une forme d'obéissance, mais ça n'est pas une forme d'obéissance pour mériter l'abondance, c'est une forme d'obéissance pour aller vers l'abondance que Dieu nous a réservée. Aucune nécessité de jalouser qui que ce soit. En disant, ouais, tu comprends, lui il a ça, mais moi je n'ai pas ça, elle a ça, mais moi je n'ai pas cela. Dieu a des choses pour chacun d'entre nous qui vont au-delà de ce que nous demandons, pensons, imaginons, rêvons. Et c'est à chacun d'entre nous, mais moi je ne peux pas aller chercher, quand je dis aller chercher, recevoir ces choses pour vous. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont à vous. Je ne peux pas aller chercher ce que le Seigneur a pour une autre église. C'est pour notre église. En ce qui concerne celle-ci, nous allons avoir ce que Dieu nous a prévu. C'est simple. Et cette année, en ce qui nous concerne, elle est couronnée des biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Ce qui veut dire que ce sont ceux de Dieu que nous voulons recevoir. Et les biens de Dieu ne peuvent se recevoir que par la foi. Ce n'est pas difficile. On ne peut pas mériter, on ne peut pas négocier, on ne peut pas transpirer. On ne peut pas. Cette année, Dieu couronne l'année de ses biens. Alors, vous allez dire, mais était pas verse l'abondance. Encore une fois, l'abondance, elle est nôtre. Mais on y est conduit par l'Esprit de Dieu. Je répète, on y est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire, il faut que nous ayons un cœur, que nous gardions un cœur tendre. Il faut que nous gardions un cœur tendre. C'est ce que Proverbe 4 nous dit. Il dit, protège ton cœur, protège ton cœur, plus que toute autre chose. Ce qui veut dire protège ton cœur plus que ton argent. Protège ton cœur plus que certaines relations. Si certaines relations t'amènent vers toute forme de rébellion, vers toute forme... si tu as des gens qui sont influents pour toi et qui prennent à la légère la parole de Dieu, eh bien, tu veux t'en séparer. Tu veux t'en séparer. S'il y a des gens qui t'empêchent de courir, oui, bien sûr, il y a des gens que l'on va aider et qui sont peut-être moins forts que nous dans la parole de Dieu. Évidemment, si vous êtes mariés, ce n'est pas pour vous. Hein. Mais s'il y a des gens qui nous empêchent de courir avec Dieu, ben, il faut peut-être se demander si c'est nous qui devons les aider et pas quelqu'un d'autre. Mais ne laissez rien vous empêcher d'être guidé par le Seigneur vers votre abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Ben oui, c'est certain que plus on progresse vers notre abondance et plus il y a de la joie. Oh là 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 là, pourquoi il y a tant d'églises qui sont tristes? Pourquoi? Ben parce que les gens ne sont peut-être pas encouragés à aller vers leur abondance. Hein? Vous êtes avec moi? Pourquoi il y a tant d'églises qui ressemblent à des cimetières? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces cris de victoire, il n'y a pas ces cris de joie, il n'y a pas ces cris de... Déjà, quand vous avez reçu un cadeau et auquel vous ne vous attendiez pas, oh, waouh, merci beaucoup. Quand c'est un cadeau que vous attendiez depuis longtemps, oh, gloire à Dieu, quand c'est un cadeau que vous attendiez depuis longtemps et qui est au-delà de ce que vous demandiez, wouh! Hein? Et cela, plus on reçoit l'abondance que Dieu a pour nous, et plus il y a de la joie. Donc ça c'est un indicateur dans une église. Hein. Est-ce qu'il y a cette joie? Vous savez, quand c'est le moment de la louange et que l'on a des merci glorieux à dire, eh bien, ça devrait s'entendre. Et s'il n'y a pas ces merci généreux qui émane de notre cœur vers un Dieu qui est bon, en général, ça veut dire qu'il n'a rien fait, on va se poser des questions, ou alors, on n'a rien reçu. Il faut peut-être se demander où est notre foi. Mais Dieu est celui qui a prévu quelque chose. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas aux États-Unis? Voilà, vous avez entendu Alors, pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas la Chine? Pourquoi pas le Qatar? Pourquoi pas l'Angleterre? Parce que tout simplement, le Seigneur est celui qui m'a connecté avec les États-Unis. Une chose que j'ai apprise dans le livre des Actes, il est dit que Pierre et Jean, après avoir été mis en prison, sont retournés vers les leurs. Une autre version dit ils sont retournés vers leur propre compagnie. Vous savez quel est le problème avec beaucoup de chrétiens? Ils ne savent pas quelle est leur compagnie. Ils ne savent pas quelles sont les leurs. Ils ne savent pas quelles sont leurs églises. Alors ils vont partout et ils vont nulle part. Et combien il est important de savoir où est-ce que Dieu t'a placé. Non seulement où Dieu t'a placé, ça veut dire que tu vas continuellement recevoir la parole. Et la parole est comme une brique dans notre vie qui bâtit, qui bâtit, qui bâtit, qui bâtit, qui bâtit. Et puis tout d'un coup, j'espère que si vous êtes venu régulièrement dans cette église parce que Dieu vous l'a dit, vous trouvez que vous êtes différent à la fin de en début 2018 que vous l'étiez en début 2017. Qui dit moi, ça m'a changé. Vous savez, en 2017, j'ai reçu tellement de révélations de Dieu. En 2016, j'ai reçu tellement de révélations de Dieu. C'est bien qu'en 2017, j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu tellement de révélations que Seigneur, Je ne sais pas comment tu vas faire, mais en 2017, tu vas encore m'en donner. J'en ai tellement reçu en 2017 que 2018, j'ai dit, Seigneur, j'ai dû le faire, prier par la foi, dire, Seigneur, j'en ai reçu tellement en 2017 que, eh bien, tu vas encore m'en donner. Il y a tellement de choses que j'ai comprises sur la foi, par exemple. Alors, vous savez, c'est un sujet que j'étudie depuis des décennies, hein, il y a encore des tas de choses que je n'ai pas comprises sur la foi. Et le Seigneur va continuer à satisfaire notre cœur. Le Seigneur est celui qui voit un cœur qui est comme une éponge, et il rassasie, et il rassasie, et il rassasie, et il abreuve, et il abreuve, et il abreuve, jusqu'à ce que ça déborde, et là, il vaut mieux qu'on le donne à d'autres. Parce que si on ne le donne pas, eh bien, on ne reçoit plus. C'est aussi simple que cela. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner et de donner et de donner ce que l'on a reçu. Alors, c'est vrai que, voilà ma connexion avec les États-Unis. Et cette connexion, elle est depuis que je suis toute enfant. Parce qu'étant enfant, je me souviens que mon père avait été, à vrai dire, il était allé au Canada, mais on avait entendu parler des États-Unis. Et depuis très très jeune, je voulais apprendre l'américain, pas l'anglais, l'américain. Et j'avais déjà une connexion dans mon cœur. Donc tout naturellement, quand je cherchais une école, je voulais aller faire une école biblique, et j'avais entendu parler de celles qu'il y avait en France. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, elles sont certainement très bonnes, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu bien formés qui en ressortent. Mais aucune ne résonnait dans mon cœur. Quand j'ai entendu parler d'une aux États-Unis, notamment parce que j'avais remarqué que quand les pasteurs qui sortaient de cette école priaient, eh bien, il y avait des exaucements. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, je voudrais savoir ce que veulent ces pasteurs. Et le Seigneur m'a dit, il va falloir que tu ailles là où ils ont appris à me connaître. C'était aussi simple que cela. Donc, voilà, je suis allée dans cette école biblique et c'était Réma, avec Kenneth Hagin comme enseignant. Et je bénis Dieu d'avoir reçu de son ministère pendant qu'il était vivant. Il n'y a rien de tel d'avoir un direct avec un serviteur de Dieu qui a reçu un message. Alors, ce n'était pas le premier à avoir. Vous savez, tous les méthodistes, eh bien, connaissent ce message de la foi. On a l'impression qu'il est né avec Kenneth Hagin. Non, tous les méthodistes, ça fait des décennies que les principes de la foi sont expliqués au peuple de Dieu. Beaucoup de ceux qui étaient profs sont maintenant des amis. Et par exemple, Patsy Caminiti, beaucoup de gens que j'ai admirés comme Billy Brim sont maintenant des amis. Billy Brim qui va venir, hein. Si vous saviez ce qu'elle est contente de venir, et Billy Brim qui vient, vous n'avez aucune idée. Parce que les gens pensent, oh, c'est une personne. Non, c'est une onction. C'est une personne avec des révélations, d'une personne avec des expériences en Dieu, mais c'est quelqu'un qui porte une onction. Quand quelqu'un porte une onction et que cette personne va à un endroit précis, cette onction transforme l'atmosphère. C'est aussi simple que cela. Et celle que porte Dr. Billy Brim, c'est vraiment une belle onction. Donc, je retourne vers les miens. Et les miens, et je ne m'en excuse pas, c'est la compagnie de la grâce et la foi. Ou de la foi et la grâce, peu importe dans l'ordre. Ce sont ça les miens. Si bien que quand je reçois, et fut un temps, je recevais beaucoup d'invitations pour aller à des conférences. Mais aucune des personnes qui organisaient ces conférences n'avait été sur mon chemin pour m'instruire dans le ministère. Donc, même quand c'est tout payé, c'était tentant parce que ça m'aurait un peu fait des vacances, mais je n'avais aucune raison d'aller vers là. Parce que je sais où Dieu m'a placé. Et c'est dans, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais ou de moindre qualité. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui grandissent dans d'autres compagnies. Hein? Les différentes tendances dans le corps de Christ, toutes ensemble, reflètent la doctrine de Dieu. Mais est-ce que tu as remarqué que tu as un système nerveux dans ton corps? J'espère que tu as remarqué ça. Certains, on se demande parce qu'ils ont tellement la fatigue. Non. Mais tu as un système cardiaque. Tu as un système digestif. Ton système digestif, ce n'est pas simplement ton estomac, ta bouche fait partie du système digestif. Tu as un système sanguin. C'est un système. Bien, est-ce que si par exemple ton foie, tu disais, oh ben moi il fait partie de mon système nerveux tout d'un coup. Non, ton foie, il vaut mieux qu'il reste dans ton système, quoi, je pense, digestif. Il vaut mieux qu'il reste à sa place. Imagine que ton cœur dise, ah ben moi je veux faire partie du système digestif. Est-ce que ton corps fonctionnerait autant? Est-ce qu'il fonctionnerait bien? Non. Mais il y a des chrétiens, ils ne savent juste pas dans quel système ils font partie. Bon, c'est un truc. Alors, grâce à Dieu, c'est vraiment ancré en moi, cette histoire de les miens. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sais retourner vers les miens. Je sais qui sont les miens. Ils parlent le même langage. On parle le même langage. Quand on parle, par exemple, des projets, on parle de la vision ensemble, eh bien, on n'a pas besoin de s'excuser pour les mots que l'on emploie. On parle le même langage. Mais si nous estimons que, par exemple, la compagnie de la foi et de la grâce fait partie du système, je ne sais pas moi, cardiaque, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans le système sanguin sont mauvais. La preuve, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, je le répète, qui grandissent et qui font un travail merveilleux dans son système. C'est juste pas le mien. Ça n'est juste pas le mien. Donc je retourne, c'est vers eux que je retourne et ça me nourrit. Tout comme il vous est proposé des conférences ici dans le but de vous aider à grandir. Ce n'est pas dans le but de vous aider à connaître des versets, c'est dans le but de vous aider à grandir dans la place où Dieu vous a placé, dans la société, dans l'église, bien sûr dans votre famille. Tout ce que nous recevons dans une église a un impact direct sur notre vie personnelle. Les gens, quelquefois, essaient de dissocier. Ben, il y a ma vie personnelle et il y a ma vie d'église. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des hypocrites, ça fait des gens qui vivent avec certains principes dans leur vie personnelle et qui vivent avec d'autres principes quand ils se retrouvent au milieu des chrétiens. Et il ne devrait pas en être comme cela. Ce que toutes les conférences qui sont faites pour vous enrichir personnellement. Et plus vous êtes enrichi personnellement, à tous les niveaux, eh bien, plus la vie d'église est enrichie. Plus votre vie d'église est enrichie, plus votre vie personnelle est enrichie. C'est aussi simple que cela. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a joie, il y a l'abondance que l'on découvre en Dieu. Évidemment que quand je vais aux États-Unis, eh bien, je vais rencontrer des personnes. Alors, quelquefois, je prêche aux États-Unis. Très souvent, ce sont des églises qui sont impliquées avec nous d'une manière, avec notre église d'une manière et d'une autre, et ils ont envie de voir quelles sont, ils ont envie d'avoir un contact avec les personnes avec lesquelles ils sont des partenaires. Vous imaginez, hein. Et donc vous avez les salutations de l'église des pasteurs Mac et Lynn Hammond que j'ai vu, et oh là 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 là, vous n'imaginez pas toutes les questions qu'on me pose sur vous. Et ensuite, je suis allée à une conférence de prière qui avait lieu dans l'église des pasteurs Marc et Janet Brazy. Vous vous rappelez qu'ils sont venus. Et c'était. Je dois dire que si j'avais pu rester là plus longtemps, je serais restée plus longtemps. Il y a ce même esprit de prière. Et le pasteur Marc est un homme de prière, comme les gens... Vous savez, il est connu pour être un homme de la parole. Il est connu. Mais ce à quoi il se donne énormément, c'est à la prière. C'est-à-dire, la prière, quand tu pries et que tu suis l'Esprit de Dieu, tu sais que tu touches ton futur. Tu touches le futur de l'Église, tu touches le futur de ta nation, tu touches le futur de... Tu touches le futur quand tu pries. Et par tes mots, eh bien, tu vas le ramener dans cette dimension. C'est ça la prière, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on voit une énorme différence entre une église qui prie et une église qui ne prie pas. L'atmosphère est juste différente. Même si c'est une église qui prêche la parole, qui prêche la parole, qui prêche la parole, si c'est une église qui est déficiente dans la respiration, dans l'inspiration, l'expiration divine, c'est une église où l'atmosphère est complètement différente. Donc, dans cette église du pasteur Mac Hammon et puis de Marc Brasi, ce sont des églises qui respirent la prière. C'est normal de parler à Dieu. C'est normal d'investir dans le futur. C'est normal de découvrir la volonté de Dieu dans l'esprit. C'est normal de coopérer avec Dieu. Seulement, beaucoup de gens n'aiment pas prier parce que quand les gens prient, ils ne sont pas sur le devant. C'est simple. Ce sont des gens en général qui sont très discrets. Ce sont des gens en général qui ne se vantent pas. Ce sont des gens en général qui sont très attentifs. Très attentifs à Dieu et ce sont en général des gens qui sont très attentifs aux autres. Et il y a deux dames, à un moment donc, deux dames sont venues me saluer. Et puis Marc et Janet qui étaient là me disent « Ah, tu sais, je t'avais dit que nous prions avec deux autres couples. » Eh bien, voilà les deux dames qui sont là. Et puis, ils m'ont dit, tiens, est-ce que après le déjeuner, tu voudrais aller prier avec elles ? Bon, tu parles, oui. Écoutez, ce sont deux dames. Je veux vous dire que, vous savez, l'apôtre Paul a dit qu'en esprit, il était avec les Corinthiens. Il dit, absent de corps, mais présent en esprit, je sais ce qui se passe au milieu de vous. Hein ? Vous vous rappelez de cela ? Non ? D'accord. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Il veut dire, je n'étais pas au milieu de vous physiquement pendant vos réunions. Et par la prière, je l'ai été et je sais ce qui se passe au milieu de vous. Et c'est pour cela que dans ses lettres, il a répondu d'une manière vraiment directe et tranchante parce qu'il savait exactement ce qu'il devait leur dire. Et ces deux personnes, on s'est mises à prier. Nous avons prié ensemble et c'est comme si nous avions prié pendant des années ensemble. Et je peux vous dire que ces personnes étaient en train de parler des choses qui se passent au milieu de nous comme si elles avaient été toute l'année avec nous au culte. Et c'est tellement touchant d'entendre le cœur qu'elles ont pour la France et le cœur qu'elles ont pour ici. C'est vraiment... vous savez, quelquefois, je ne peux pas parler de ce qui se passe dans les autres églises, je ne sais pas. Mais ce que je sais ici, la richesse qu'il y a dans cette église, la qualité des serviteurs de Dieu que nous recevons, l'engagement des personnes qu'il y a, c'est vraiment, vraiment beau. Mais nous devons réaliser que si nous faisons notre part, il y a une telle provision surnaturelle que nous recevons de tant d'autres. De cette église Living Word, de l'église des pasteurs Marc Brasi et de combien d'autres encore. Donc si vous voulez, c'est vrai, le Seigneur exauce nos prières, mais il n'exauce pas que nos prières à nous, il exauce des prières aussi d'autres qui ont prié pour nous. Et puis après avoir été donc deux jours, hein, c'était vraiment court, à cette conférence, eh bien, je suis allée à la conférence des serviteurs de Dieu de Kenneth Copeland. Et c'est une conférence parce que je crois que nous devons savoir quelle est notre compagnie et je crois que nous devons savoir qui sont les nôtres et des nôtres, nous recevons la parole de Dieu dans cet esprit dans lequel nous l'avons reçue. Et puis, les nôtres, c'est notamment toute cette ensemble de serviteurs de Dieu qui se retrouvent lors de cette conférence pour serviteurs de Dieu de Kenneth Copeland. Alors, tu peux dire, mais pourquoi pas de Réma ? Pourquoi ? Parce que des choses ont changé à Réma. Moi, j'y étais quand il y avait le Père. Et aujourd'hui, c'est le Fils. Et c'est bien pour ceux qu'ils sont. Mais des choses ont changé. Et le Seigneur est celui qui m'a amené en continuant dans ce même flot-là, à travers ce que Kenneth Copeland dit. Et j'assiste à cette conférence de serviteurs de Dieu tous les ans depuis presque 15 ans maintenant. Et j'ai toujours cru que nous devrions être associés à d'autres serviteurs de Dieu. Je n'irai jamais dans une église où un serviteur de Dieu n'a pas d'autre serviteur de Dieu qui l'entoure. Je n'irai jamais là. C'est simple. Un pasteur ne veut pas être une île à lui tout seul. Hein, il n'est pas un monde à lui tout seul. Et je vais vous dire un un petit peu ce qu'on a entendu. Alors évidemment, ça ne reflète pas la richesse, hein, mais Kenneth Copeland a beaucoup prêché sur le nom de Jésus. Alors il faut savoir que cette conférence-là commence mardi, mercredi, jeudi, 3 jours, mais il y a 2 réunions le matin, 2 réunions l'après-midi et une longue réunion le soir. Donc c'est du concentré et c'est très, très, très riche. Kenneth Copeland a enseigné sur le nom de Jésus et puis j'ai manqué les 2 dernières réunions parce que tout simplement j'avais un vol le lendemain et que je devais rendre la voiture. Je voulais la rendre la veille de manière à ce que le lendemain, je n'ai pas besoin de courir avec mes valises jusqu'à l'agence de location de voiture et ensuite que je prenne mon vol. Donc voilà. Et c'était extraordinaire de le faire comme ça. Mais d'après ce que je comprends, il a prêché sur les anges. Et comme il y avait le fils de Oral Roberts qui était là, et qu'il est tellement loin pour tout ce qui est guérison que... Mais bon, j'ai commandé le DVD et je pourrais voir cela. Et puis Mac Ammon, le pasteur Mac Ammon a prêché sur la sagesse pour le leadership. Pasteur Mac est un leader. C'est très simple. C'est énorme le leadership qu'il a sur lui. Donc quand le pasteur Mac vous dit « je vais prêcher sur la sagesse », je vais vous dire que tout le monde a l'intelligence d'ouvrir les oreilles de son cœur. Il a une chose qu'il a dite. Est-ce que vous m'entendez parler de la créativité ici? Hein? Ouais? Et ça m'a fait tellement plaisir quand il a dit « la créativité est un signe de la présence de la sagesse ». Hein? La créativité, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je ne supporte pas que l'on ne s'ouvre pas à d'autres manières de faire. La créativité, l'innovation pour moi, c'est la vie de Dieu au milieu de nous. Et puis, il racontait c'est une histoire véridique. Le mont Everest, alors aujourd'hui, il y en a qui vont se balader. Moi, j'ai des amis pasteurs qui m'ont envoyé une photo du mont Everest et puis ils l'avaient fait, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est presque banal d'aller sur le mont Everest. C'est style, comment ça, t'es pas encore allé sur Mars et puis t'es en train de te vanter d'aller sur le mont Everest? D'où est-ce que tu sors, toi? Hein? Mais les premiers qui sont allés, alors je vais raconter cette histoire. Il y a une cordée qui est allée, et je ne me rappelais plus exactement le nombre, mais il devait être une dizaine, hein, petite dizaine. Et les conditions, alors vous imaginez que les premiers, ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre. Ce sont des pionniers. Et il y a pratiquement toute la cordée, sauf 3 qui sont décédés. Parce que le temps que vous identifiez le chemin, le temps que vous compreniez où sont les crevasses, etc. Et il n'y en avait plus que 3. Et il y en a 2 qui ont eu un accident. Donc celui qui restait, eh bien, c'était assez intelligent de ne pas y aller seul, vous l'avouerez. Donc il a dû accepter de retourner. Et voilà ce qu'il a dit. Alors, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui comprenait le principe de la foi, mais il a parlé à la montagne. Il a dit, toi, montagne, tu es grande et tu es plus grande que nous. Mais la différence entre toi et nous, c'est que toi, tu gardes la même taille et nous continuons à grandir. Et un jour, nous te vaincrons. Oh là 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 là. Et ça m'a tellement parlé, c'est énorme, énorme. Il n'y a aucune montagne. Et un jour, eh bien, il l'a vaincu. Il est arrivé jusqu'au sommet. Voilà. Bon, ça, c'était parmi les choses donc qu'il nous a dit. J'ai entendu cette phrase, mais qui n'était pas pendant la conférence, mais elle me revient. Beaucoup de gens sont à la recherche des prophéties. Oh. Alors, c'est vrai que quand on annonce une conférence de prière, eh bien, il y a peu de gens qui viennent parce que une conférence de prière, vous savez, c'est purement généreux. C'est de la générosité. Je donne mon temps, je donne mes paroles, je donne ma présence, je donne... Alors évidemment, on va recevoir à travers l'enseignement, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas prier parce que prier, c'est donner. Hein, et donner avec discrétion. Donc, quand on annonce en général, fut un temps surtout, c'était les conférences prophétiques. Vous avez entendu parler des conférences prophétiques? Je ne supporte pas celle-là. Et on va prophétiser, je vais t'apprendre à prophétiser. C'est simple, tu es dans une église qui enseigne la parole, tu apprends à suivre le Saint-Esprit et c'est ça l'enseignement. C'est aussi simple que cela. Et c'était un enseignement que j'écoutais avant de partir aux États-Unis, ça m'a fait tellement rire. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin d'une parole prophétique pour les amener à croire qu'ils ont un rêve. C'est-à-dire quelqu'un qui te prophétise que tu as un rêve. Non mais franchement, tu as besoin d'une prophétie pour réaliser que tu as un rêve. Alors certains disent, c'est ça le problème, je ne sais pas quel est mon rêve. Viens au Weekend Studio. Viens au Weekend Studio. Il y a Dennis Burke qui a prêché sur le courage. Oh, c'était magnifique. C'était non seulement encourager, mais recevoir souvent des encouragements, mais le mieux, c'est d'encourager. Par exemple, ce matin, je les ai encouragés, à ma manière, je les ai encouragés à croire que les paroles qu'ils ont, sont suffisantes, celles qui sont dans leur cœur. Creflo Dollar, a enseigné sur l'onction, sur le fait que le Saint-Esprit est un partenaire. Donc on pourrait dire, oui, mais il est un partenaire qui nous a été donné, qui reste avec nous. Personne n'a besoin d'échouer. Et vous savez, quand quelqu'un échoue, c'est pas la mer à boire. Je ne connais personne sur cette terre qui n'ait jamais connu l'échec. Vous m'entendez? Personne. En revanche, je connais beaucoup de gens qui ne font rien, qui n'entreprennent rien, qui refusent des promotions parce qu'ils ont peur de l'échec. Et ce sont des gens qui restent bloqués et grosso modo qui finissent par se dessécher comme un pruneau d'Agen. On a un partenaire. Donc quand on connaît un échec, la Bible nous dit que le Seigneur a pour nous une issue de secours. C'est simple. Il sait comment nous donner la force d'en sortir et il a toujours prévu. Mais le partenaire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. C'est lui qui va nous aider à nous relever. C'est lui qui va nous aider à nous en sortir. Aucun problème n'est trop grand pour être invaincu par le Seigneur. La Bible dit « Tout est possible à Dieu » et la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Seulement, il faut arrêter de vouloir gérer les problèmes soi-même. Il faut arrêter. Saint-Esprit, ok, toi qui connais tout. La Bible nous dit que Jésus ne pouvait rien sans Dieu. Il ne voulait rien faire sans Dieu, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit. Et puis le suivant, Bill Winston, c'était également sur l'onction. Et il nous a cité quelqu'un, il n'a pas pu nous dire qui était l'auteur de cette phrase, mais elle est magnifique cette phrase. Je vous la donne ou peu importe? Revenez dimanche. Non, cette phrase, c'est « Dans les derniers jours, la foi aura plus de valeur que l'or. » Je la trouve énorme. Énorme. Barclay. Alors, cet homme, c'est marrant parce que, vous savez, le Seigneur nous utilise en fonction de nos expériences. Et cet homme-là, Marc Barclay est quelqu'un qui a été, c'était un militaire, un officier dans les marines, je crois. Alors, tout ce qu'il dit a à voir avec les militaires. Donc, c'est quelqu'un qui est pour le moins direct. Et il disait comme cela, écoutez bien, si on laisse le diable le faire, il transformera notre santé, notre famille, notre travail, notre quartier, notre pays, notre église en zone de guerre. Si on laisse le diable faire, il transformera notre vie, notre santé, notre église, notre travail, notre famille, notre quartier en zone de guerre. Pas mal d'un homme qui a connu la guerre, à vrai dire, il l'a connu, lui. Jesse Duplantis, lui, c'était le christianisme, c'est l'avancement. Une chose qu'il a dite, qui était simple, je crois que non, c'est un autre qui l'a dit, mais ça m'a marqué. L'Église, et on le sait, mais l'Église, c'est une nation. Et c'est ce que Pierre dit, l'Église, c'est une nation. Keith Moore a prêché sur le fait de ne pas prononcer de vaines paroles, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas ciblées ou des paroles qui sont mal employées. Bon, ben voilà. Alors, il y a des enseignements qui me manquent, hein, je peux vous garantir que je ne les laisserai pas passer, mais c'était extrêmement riche, sans compter tous les exemples qu'il donne et qui incitent à continuer à marcher par la foi. Et en ce qui me concerne, pour cette année, alors je garde la vision et je peux vous dire qu'on va mettre l'accent sur les personnes âgées. Dès que notre bâtiment, on rentre dedans, on va être une bénédiction pour les personnes âgées. Ça c'est clair et je sais que le fait d'être une bénédiction pour les personnes âgées va être une bénédiction pour la mairie. Et puis ensuite, eh bien, peut-être parallèlement, on verra. J'ai commencé à travailler là-dessus, ça va être vis-à-vis des musulmans. On va faire quelque chose pour les atteindre, pour les toucher. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'on ait peur d'eux. Il y a des tas de musulmans qui, quand je dis peur d'eux, ça veut dire que vous avez peur de croiser un musulman, mais qu'on ait peur de leur parler du message du salut. Donc bon, voilà, on va voir cela. En ce qui concerne le bâtiment et tout le reste, ma vision, elle est top. Je sais que le Seigneur est celui qui nous donne au-delà de ce que nous demandons. Comment il va nous le donner, ça m'est quand même égal, ça c'est son problème ça. En ce qui me concerne, je suis en vacances. Je suis en vacances. Concernant tout, je suis en vacances. Je suis en vacances. Alors souvent les gens, quand ils disent « je suis en vacances », ça veut dire « je déconnecte vis-à-vis de Dieu ». Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Surtout, c'est... Mais en vacances, ça veut dire quoi ? Je suis dans le repos. J'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis dans le repos. Je suis en vacances vis-à-vis de ce que je crois pour les rêves que j'ai pour ma vie privée, les objectifs. Je suis en vacances vis-à-vis des rêves que j'ai pour l'Église. Je suis juste en vacances. Ma vie sur Terre, c'est des vacances. Ça, c'est Bill Winston qui l'a dit. Il a choqué tout le monde, un peu comme ce qui s'est passé ici. Comment ça, t'es en vacances ? Ouais, et c'est exactement ce que le Seigneur a voulu pour nous sur Terre. Que nous soyons en vacances. Alors moi, je vous dis bonnes vacances. Comment est-ce que vous vivez quand vous êtes en vacances ? Oui, mais le repos ou quoi ? Est-ce que ça veut dire que vous ne faites plus rien ? Non, moi en vacances, au contraire, je fais beaucoup de choses. Je vois des choses que je n'ai pas vues. Quelquefois, je rencontre des personnes que je n'ai pas rencontrées. Je continue à lire. Là, je suis en train de lire... deux livres qui sont absolument extraordinaires. Il y en a un, c'est sur la nutrition. Il y a des choses différentes que j'ai réalisées, magnifiques. Maintenant, je sais pourquoi la Bible dit de ne pas manger de porc. Et, et puis, et, non, c'est parce qu'on entend, des tas de gens, « Oh, faut pas manger de porc ». Ben, maintenant, je sais pourquoi. Et puis un autre sur Churchill et Dieu. Excellent, excellent livre. Bon, on continue à étudier, Donc voilà, vous dites, mais tu sais, c'est ça ton message, pasteur. Ben ouais. Ouais. T'en as pas d'autres ? Oh si, j'en ai, je sais pas combien de centaines sur mon ordinateur, mais j'avais juste pas ça à cœur. Vous voyez, quelquefois, les gens, ils viennent à l'église et ils ont dans leur tête ça, ça, ça. Et si vous avez un cœur ouvert, Dieu vous a dit quelque chose ce matin. C'est autre. Voilà. Si vous avez un cœur ouvert, il y a quelque chose que vous avez compris de ce que de ce qui a été dit. Et comme c'est ce que j'avais à cœur, eh ben, je vais pas faire autre chose. Oh, j'ai rien à prouver. Moi, vous savez, en ce qui me concerne, j'ai nulle part où aller à part être dans cette église-ci. Donc, ce que je dis pas, vous savez, c'est frustrant parce que quelquefois, on va prêcher dans une église et on dit certaines choses et ben c'est simple ici, je peux reprendre la suite aussi longtemps que je veux. J'ai pas fini ma série sur la foi, c'est pas grave. En ce qui me concerne, je reviens. Donc je continuerai, bien vis-à-vis de ce que là, je continuerai à dire. Et si le Seigneur me dit, ben, s'il continue à nourrir dans ce sens-là, même si je sais ce que je vais prêcher pour une prochaine série, eh bien, s'il me dit, il y en a encore pour 2 ans, ben, en ce qui me concerne, il y en a encore pour 2 ans. J'ai rien à prouver. Vous savez, repenser l'Église, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais on est tellement religieux, c'est comme cela que ça doit se faire. Et c'est un tel qui doit dire, et ça doit être comme cela. Non. Non. Dis à ton voisin, le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Et je peux vous dire que l'Église, la bonne nouvelle, va tellement impacter que... Bien, ben voilà ce que j'avais à vous dire. Apportons nos offrandes au Seigneur. Silence. Vous savez, la Bible nous dit que chaque semence... Tout le royaume de Dieu est fondé sur le principe de la semence. Et que tout ce que nous... Quelquefois, il y a plusieurs pensées là qui se bousculent au portillon. Je vais continuer avec cette histoire de semence. Et le Seigneur dit, tant qu'il y aura le jour et la nuit, eh bien le principe de la semence va continuer à fonctionner. C'est-à-dire, tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Tu sèmes des paroles... Tu récoltes exactement le contenu de ces paroles. Tu sèmes la patience, tu reçois la patience. Quand ? De tout le monde ? Ben c'est ça le problème, c'est que non. C'est quand on en a besoin. La Bible nous dit que le Seigneur est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est-à-dire que le jour où toi tu auras besoin que quelqu'un fasse preuve de patience à ton égard, si tu en as semé vis-à-vis des autres, eh bien ce jour-là, le Seigneur va s'assurer que quelqu'un fasse preuve de patience. Si tu sèmes des offrandes de l'argent, ben c'est très simple. Le Seigneur dit, tu vas en récolter. Et c'est ainsi que nos besoins sont pourvus et que les désirs de notre cœur sont accomplis. Alors, le moment des offrandes, eh bien, et des dîmes, est un moment qui est vraiment sacré. Qui est vraiment sacré. Il y a beaucoup de gens qui... sont généreux en temps. Alors ces gens-là, quand vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, ils vous donnent leur temps. Il y a des gens qui sont généreux pour rendre service. Vous avez besoin d'un service, vous savez que s'ils disent non, c'est que vraiment ils ne peuvent pas. c'est pas autre chose. Ils ne peuvent pas, mais ce sont des gens qui aiment aider. Toujours il y a cette générosité. Il y a des gens qui sont généreux avec la parole. Vous avez besoin d'une direction vis-à-vis de la parole, ils vont vous donner. Ils vont pas vous donner un verset, ils vont vous donner des versets, des versets, des versets, des versets. Il y en a qui sont généreux avec des sourires. Et l'argent, est-ce qu'on sait être généreux avec notre argent? Mais dès que l'on parle argent, immédiatement c'est... Et pourtant, vous savez que ça m'est revenu cette pensée-là. Que quand on dit Seigneur, je veux être fidèle dans mes dîmes, d'abord parce que ces 10%-là, Dieu nous dit qu'il les a consacrés, c'est-à-dire qu'il les met à part pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il les met à part? Il se les garde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, cela veut dire que ils sont à personne d'autre. Cela veut dire qu'on accepte de ne pas les utiliser pour autre chose. Et la Bible est claire, ces 10%-là, ce sont 10% qui appartiennent à la maison du trésor. Ce n'est pas juste à n'importe où, c'est à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est ben, la maison où je reçois le trésor. Le plus grand trésor, c'est la parole de Dieu. Donc là où je reçois le pain, là où je reçois ma nourriture spirituelle, et normalement c'est pas 36 maisons, il y a une maison. Hein. Et si ensuite on veut bénir d'autres ministères, eh bien on le fait avec ce qui appartient à plus. C'est-à-dire que quelquefois les gens, ils choisissent. Le principe de la semence, c'est de ne pas, de la dîme, c'est de ne pas faire avec ces 10% ce que l'on veut. C'est-à-dire, je ne vais pas donner à un autre ministère. Oui, mais il prêche la parole, il est dans le ministère. Peu importe, c'est la maison du trésor. C'est là que tu es nourri. C'est là qu'est l'onction pastorale. C'est là que vont nos 10%. Tu dis, oh, 10% c'est beaucoup. Ben ouais, mais bon, ça c'est un chiffre. Le Seigneur, il n'a pas demandé hein, ce qu'on pensait. Il aurait pu nous demander 80% en disant, tu te débrouilles avec les 20 et tu vas croire que je vais multiplier les 20. Donc le Seigneur, quand il nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de notre portée. En revanche, écoutez bien mes amis, c'est une histoire de confiance. Et ne pas donner sa dîme, ça veut dire, je ne fais pas confiance au Dieu qui m'a sauvé. C'est-à-dire, je le fais menteur. Donc quand on apprend à donner notre dîme, ben, on apprend à faire confiance, mais vous ne croyez pas que cette confiance-là, eh bien ensuite, atteint différents domaines de notre vie? Parce que quand on comprend qu'il est un Dieu qui est fidèle, quand on comprend qu'il est un Dieu qui fait exactement ce qu'il a dit, eh bien le jour où on a besoin de guérison, on comprend aussi que ce qu'il a dit, quand il a dit qu'on était guéri, c'est vrai. Le jour où on a besoin de direction, eh bien, on comprend que quand il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien, ça, c'est vrai. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Alors, quand nous le faisons, eh bien, faisons-le avec foi. Que jamais, vous savez, depuis 87, hein? Ah non, plus que 30 ans. Non, 81. Et dès que j'ai compris que je devais apporter à Dieu ma dîme, je l'ai fait. Et c'est simple. Peut-être une ou deux fois, je ne l'ai pas fait. Et c'était un manque de confiance et j'ai récupéré après. Et depuis, c'est des dîmes, c'est des offrandes. Et je peux dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et cette année va être une année où on va récolter. Mais aussi, je vais dire, parce que ça, je l'avais la dernière fois et je ne l'ai pas dit. Si le Seigneur vous a dit de régler certaines choses dans votre vie, faites-le. Si le Seigneur vous l'a dit depuis longtemps, 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 et Dieu est un Dieu de patience, hein, s'il vous l'a dit depuis longtemps, faites-le, parce que cette année, il va vous laisser assumer les conséquences. Quand je dis « il va vous », ça aurait pu être à moi, mais je ne vois pas quelque chose que le Seigneur m'aurait dit et que je n'ai pas fait. Et cette année, c'est ce que je sens, qu'il va y avoir des gens qui auraient dû modifier. Alors ça peut être quelque chose dans leur caractère, ça peut être une façon de faire, ça peut être peu importe ce que c'est. Mais cette année, si le Seigneur vous a aidé jusqu'à présent, si le Seigneur a compensé, si le Seigneur, cette année, il va vous laisser, ou il va nous laisser, pour ne pas m'exclure, hein, il va nous laisser assumer les conséquences de notre choix. Alors, c'était une parole un peu sérieuse. J'avais tellement de choses à dire la dernière fois. Donc, cette année, cette fois-ci, ça va un petit peu dans tous les sens. Donc, ça ne dépareillera pas. C'est ajouté. Donc, moi, je vous encourage. Hein, faites ce que le Seigneur vous a dit ou cessez de faire, d'aller dans cette façon de penser, cessez de... Peut-être que ça a quelque chose à voir avec peut-être la fidélité, avec l'ordre, avec plus de discipline. Je ne sais pas moi de quoi il s'agit. Avec votre manière de gérer l'argent peut-être. Je ne sais pas et franchement, je m'en moque. Je ne veux pas le savoir. Mais faites-le. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été patientes autour de vous, qui ont compensé. Cette année, le Seigneur va les arrêter et leur dire « Arrête, laisse-la se débrouiller. » Voilà, ça c'était pour les offrandes. Tout le monde garde le sourire? Vous savez que quand vous gardez un sourire, je ne sais pas à qui je m'adresse. Hein. Et puis en plus, ça c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous t'apportons, Seigneur, ces dîmes que nous avons mises à part, qui t'appartiennent, tu les réclames. Et Père, nous savons qu'en t'obéissant, eh bien, en te faisant confiance, nous ne serons pas dans le besoin. Plus que cela, tu vas multiplier ce qui reste. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Veux nous servir, s'il vous plaît? Alors, à l'Église, nous avons, parce que nous croyons dans l'importance de la parole, nous allons confesser ensemble ce que nous croyons. Vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Dis à ton voisin, tout va bien. Répétez encore après moi, tout va mieux depuis que j'ai entendu la parole ce matin. Cette année, mon année est couronnée des biens du Seigneur. Allez ensemble. N'oublions pas, alors, on n'est pas en train de répéter comme des perroquets. On est en train de déclarer ce que l'on dit. Hein? Alors, conformément à la parole de Dieu, je crois que tout son pour accomplir ma destinée a été pourvu à la croix. Je suis si béni en Christ et loin pour prospérer en apportant à Dieu mes dîmes et mes offrandes. Je libère ma foi, car la foi sans les œuvres est morte. Je reçois proportionnellement une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Ainsi, je déclare que je suis libéré des dettes, des crédits. Je prête et n'emprunte pas. J'ai la faveur avec tout le monde. Tout ce que j'entreprends réussit. De superbes opportunités s'offrent à moi. Des bonus, des primes, des augmentations viennent à moi. J'ai la sagesse pour gérer les biens matériels. Je suis si béni que je peux donner pour de bonnes œuvres. Je démontre la générosité de Christ afin que son nom soit glorifié. Que les anges de Dieu aillent et exécutent ses paroles. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le Seigneur nous a fortifiés ce matin, bâtis? Oh, si tu savais cette année, si tu savais cette année. Alors on va terminer avec un chant. On a un chant? Alors, je vous invite à profiter d'un moment ensemble au Café Mission, là.
hauteur.